La journée sous le soleil, il est 8h. Jean-Baptiste Marie, bonjour.
Bonjour.
Sous le soleil, vous me le confirmez ?
Je vous confirme effectivement qu'il va faire beau aujourd'hui, malgré la présence de quelques nuages. Il fait de 8 à 10 degrés ce matin. Le mercure oscillera entre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.
Ça ne nous a pas échappé. Nous sommes le 8 mai. 8 mai, on célèbre la victoire de 1945. Avec différentes cérémonies, on vous pose cette question ce matin. Est-ce que vous trouvez important que les jeunes participent aux commémorations, aux cérémonies? Sont-ils d'ailleurs assez nombreux, selon vous, qui allez peut-être y assister aujourd'hui? Appelez-nous au 02 31 44 48 44, on vous attend.
Et ce n'est pas un hasard si France Bleu Normandie sort en ce 8 mai son premier podcast intitulé Opération Vétéran. On vous en parle depuis plusieurs mois. Votre radio, en partenariat avec le rectorat de Normandie, a permis à 15 classes de collèges et lycées de la région de réaliser un podcast pour raconter l'histoire d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Pendant plusieurs semaines, en classe, avec leurs professeurs, ces collégiens, ces lycéens ont enquêté, cherché des informations sur leurs vétérans. Ils se sont aussi rendus, pour certains, sur des lieux de mémoire, comme les élèves de 4e du collège Quintefeuille de Courseulles-sur-Mer. Ils sont allés au cimetière américain de Colville. C'est là que reposent les frères Arruda. Ils sont morts le 6 juin 1944, le jour du débarquement. Et justement, ces élèves travaillent sur ces frères.
Ils sont bloc G, rang 9 et tombe 26. Faut compter les tombes.
Okay. Ah mais ils sont là, c'est 25 et 26.
Wow. Manuel Estacio Arruda. Soldat de première classe, première division, Massachusetts, 6 juin 1944.
Joseph Estacio Arruda, 4e division, 8e régiment d'infanterie, né dans le Massachusetts et mort le 6 juin 1944.
C'est émouvant.
Vous voyez, sur chaque tombe, il y a le nom de l'État américain. New Jersey à côté, Illinois... Tim.
Mais du coup, là, il est vraiment tout.
Ah, c'est une des questions qui sont le plus posées.
Oui,
on n'a pas la réponse.
Fait,
ouais.
C'est un vrai cimetière, donc il y a le cercueil devant la tombe, effectivement.
On met du sable sur le nom des frères Arruda, puisque avec les fleurs ça va s'envoler, du coup on met du sable.
C'est le sable d'Omaha Beach, du coup bah, ça peut leur rappeler des souvenirs.
C'est vraiment un devoir en tant que citoyen français.
Voilà, vous venez d'entendre un extrait de l'un de ses podcasts, donc Opération Vétéran, dont la diffusion débute aujourd'hui. Ce sera comme ça tous les jours sur notre site francebleu.fr. On diffusera aussi à la radio une version courte de ce podcast. On vous donne rendez-vous dans une demi-heure, à 8h35, donc pour ce premier podcast qui sera consacré à un pilote de planeur américain. Il s'appelle Jack Merrick et ce sont des collégiens de Cherbourg qui ont travaillé sur son histoire. Et c'est évidemment en marge de ce 8 mai 45 que sort ce podcast et que des cérémonies évidemment auront lieu un peu partout en Normandie. Ce matin par exemple à 11h à Caen sur l'esplanade du Mémorial. On reparlera de ces commémorations, de ces porte-drapeaux, de l'engagement aussi de ces élèves par l'intermédiaire de France Bleu sur le travail de mémoire avec notre invité à 8h15, Thomas Pouty. Il est directeur dans le Calvados de l'ONAC-VG, l'Office National des Anciens Combattants et victime de guerre.
L'actualité de ce 8 mai en Normandie, c'est aussi la mise en examen du père de Mathis pour meurtre.
Mathis, cet enfant disparu il y a 13 ans, après avoir été enlevé par son père, Sylvain Joanneau. Il n'avait pas ramené l'enfant à son ex-compagne après un week-end de garde. L'homme avait été retrouvé seul, sans son fils, 3 mois plus tard, près d'Avignon. Condamné à 20 ans de réclusion en 2015 par les assises du Calvados pour enlèvement et séquestration, Sylvain Joanneau n'a jamais dit ce qu'il avait fait de Mathis. Alors sa mise en examen pour homicide volontaire est un rebondissement important dans l'enquête, Nolwenn Lejeune.
Une épreuve terrible pour cette femme qui se bat sans relâche depuis 13 ans pour retrouver Mathis et à qui l'avocat général de la cour d'appel de Caen, chargé de statuer sur le placement en détention provisoire de Sylvain Joanneau, s'est adressé. Pardon pour ces mots, mais il est évident que Mathis est mort et il ne faut pas que Sylvain Joanneau puisse être libéré. Il est inenvisageable de pouvoir le laisser en quelque sorte faire disparaître une deuxième fois la dépouille de Mathis. Nathalie Barré en est ressortie sonnée, silencieuse, laissant son avocate Aline Lebré s'exprimer.
C'est difficile. Elle le sait, hein, depuis finalement le procès de 2015, les investigations sont orientées sur un enfant qui est décédé et non pas disparu. Donc malheureusement, nous allons petit à petit vers ce chemin.
Le chemin d'une mort de Mathis très rapidement après la disparition. Malgré le silence obstiné de Sylvain Joanneau, une trace ADN découverte dans le coffre de sa voiture a relancé l'enquête.
Au verso du tapis de coffre d'un véhicule, c'est la localisation de ces traces qui est surprenante. Comment peut-on peut-on avoir l'ADN de son enfant au verso du tapis de coffre d'un véhicule? J'en déduis que ce tapis de coffre a été manipulé. Pour l'instant, c'est tout. On laissera Sylvain Joanneau s'expliquer.
Il s'expliquera dans le cadre de cette nouvelle procédure suite à sa mise en examen. Il est en effet désormais en détention provisoire, ce qui change son régime carcéral. Une procédure dont l'issue pourrait être un nouveau procès devant la cour d'assises du Calvados.
Voilà, nouveau rebondissement donc dans l'affaire de la disparition de Mathuis, vécue comme une nouvelle épreuve pour sa mère. Vous l'avez entendu, c'est à lire sur notre site francebleu.fr.
8h06, l'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert pour la mise en service de l'EPR à Flamanville.
Oui, la SN l'a annoncé hier, c'était une étape clé pour le démarrage du réacteur nucléaire nouvelle génération qui aurait dû produire de l'électricité depuis 12 ans. Mais l'EPR de Flamanville a surtout fait parler de lui pour ses malfaçons, ses rappels à l'ordre du gendarme nucléaire français et l'explosion de la facture du montant de sa construction par EDF. Alors dans le village voisin des Pieux, les habitants sont-ils soulagés de savoir qu'enfin le réacteur nucléaire va pouvoir démarrer ou au contraire sont-ils inquiets des aléas du chantier qui se sont accumulés? Nous leur avons posé la question sur le marché des Pieux.
Bah, il faudrait que ça démarre, oui.
Depuis le temps qu'ils disent que ça doit se terminer, il était temps que ça se finisse enfin, quoi.
On le voit positivement dans le sens où c'est des emplois et puis c'est une énergie qui reste propre.
Il faut espérer que ça se passera bien et puis qu'il n'y aura pas de problème.
On n'a pas trop envie d'être là quand ça va se faire.
Tout le monde sait qu'il y avait beaucoup de retard et tout ce qu'on espère, c'est que le retard au moins aboutira à un fonctionnement avec la sécurité qu'il faut pour la population.
Non, je ne suis pas inquiet, non.
J'ai appris à vivre avec et je pense qu'on ne prête plus tellement attention que quelqu'un qui vient en visite ou quand on habite au loin.
Il y a des risques partout, alors bon, je pense que c'est quand même assez sûr.
Là, tous les voyants sont au vert pour produire correctement.
Avec les centrales nucléaires, je ne suis jamais sereine, donc j'attends de voir comment ça va se passer et l'évolution de cette centrale.
On verra avec les années ce que ça donnera.
Voilà ce qu'en pensent les habitants des Pieux, donc village tout proche de Flamanville, là où l'EPR sera donc mis en service dans les prochaines heures, prochains jours. EDF a l'autorisation donc de charger le combustible nucléaire et va pouvoir débuter les phases d'essai. Il sera ensuite raccordé au réseau national, si tout va bien, à partir de cet été.
En football, c'est fini pour le PSG en Ligue des Champions.
Eh oui, ne passez plus. Terminé. Les joueurs du Paris Saint-Germain n'iront pas à Londres. Ils n'iront pas jouer la finale de la Ligue des Champions. C'est le Borussia Dortmund qui a eu son ticket hier. Les Allemands ont encore une fois battu les footballeurs parisiens. 1-0, le même score qu'au match aller. C'était la demi-finale retour hier au Parc des Princes. Notez quand même que Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'ont pas réussi à marquer. Ils ont toutefois touché 4 fois les montants. Poteau, barre transversale dans ce match. Dortmund qui connaîtra son adversaire ce soir. La demi-finale retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich a lieu en Espagne. Et cela avait fait match nul à l'aller, 2-2. Donc pour l'instant, aucune des deux équipes ne se détache. Résultat, réponse ce soir.